Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 106. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2020. Je suis Minter Dial, votre grand-père et hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, mon invité est Greg Puy. Greg est un ami de longue date et est aussi un conférencier, conseiller, podcasteur et auteur d'un nouveau livre, Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier, aux éditions d'Uno. Dans cet entretien avec Greg, nous parlons de comment définir le succès. On apprend le voyage de Greg avec son podcast Velan. Comment les marques devraient s'y prendre sur des sujets politiques dans la nuance entre être militant et engagé. Et la quête d'une vraie raison d'être en entreprise. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur iTunes, ou autrement dit Apple Podcast. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Greg Puy. Wow, Greg from Paris. Content de t'avoir sur le podcast. On se connaît depuis de longues dates. On a partagé des plateaux. Je t'ai vu parler à South by Southwest. Et depuis peu, tu as sorti un livre, L'insoutenable paradis. En tes mots, comment tu voudrais te présenter, Greg?
Merci, Minter. Je suis ravi d'être là parce qu'effectivement, on se connaît depuis très longtemps. Maintenant, je me présente comme une sorte d'analyse culturelle. Moi, je suis un marketeur à l'origine, mais analyse culturelle parce que j'essaye de comprendre comment la société évolue et j'essaye d'aider les personnes qui sont proches de moi à se transformer. Je crois que c'est vraiment fondamentalement ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire connecter les personnes entre elles, connecter les personnes à une forme, avec elles d'ailleurs aussi, mais dans une logique de transformation. Alors moi, je ne suis pas du tout coach, mais transformation des organisations, transformation des stratégies marketing des entreprises. Je pense que je fais énormément, enfin, comme beaucoup de gens, je suis une forme de slasher, donc je fais beaucoup de choses différentes. On aura l'occasion d'en parler, je pense. Mais fondamentalement, c'est ce que j'essaie de faire. Et je le fais par différents médias, donc que ce soit mon podcast Vlan, que ce soit ce livre Insoutenable paradis, que ce soit à travers les cours que je peux donner, les conférences, le conseil, etc.
Beaucoup de médias. Je voudrais quand même parler bien du podcast Vlan. C'est un podcast qui connaît un bon succès. Dis-nous un peu le sujet de Vlan et le type de succès que tu remportes.
Ouais, donc Vlan, c'était un podcast marketing à l'origine. Aujourd'hui, c'est un podcast sur l'évolution de la société. C'est un podcast sur le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. Ce qui permet de couvrir des sujets qui sont très différents les uns des autres. Ça peut passer la relation, par exemple, les relations amoureuses. Ça peut être sur le rôle des drogues potentiellement. Ça peut être sur notre relation à la ville. Ça peut être sur le biomimétisme. En fait, je couvre des sujets assez larges finalement. Et aujourd'hui, c'est un podcast qui s'est effectivement pas mal intégré dans le paysage français, qui représente à peu près 150 000 écoutes par mois.
Bravo.
Merci. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup, mais en même temps, tu sais, moi, je fais pas vraiment l'apologie de la performance. Je cherche pas nécessairement à devenir le plus gros podcast. Et je sais que traitant ce sujet-là, ça peut pas être le plus gros podcast. Mais c'est un podcast qui touche un public qui, moi, me semble pertinent, c'est-à-dire de gens qui ont une influence par ailleurs, des journalistes. Et puis, en fait, l'essentiel pour moi, c'est de faire changer les personnes qui écoutent. Après, plus il y en a, mieux c'est, mais ce n'est pas fondamentalement ce que je cherche à faire.
Mais c'est un beau sujet à débattre parce qu'en fait, ça touche au sujet de c'est quoi le succès?
Exactement. Qui est un sujet qui, à mon sens, est essentiel parce que je crois qu'on a grandi dans une société où le succès, le bonheur, on a associé souvent les deux, était très lié à une idée autour de l'accumulation, accumulation de biens, de pouvoir, d'argent. Et quand on dit quelqu'un qu'il a gagné X millions ou qu'il dirige je ne sais pas quelle société ou pouvoir politique ou autre, on se dit qu'il a réussi. Donc, on a vraiment cette association qui est liée. Simplement, ce récit, il n'est pas nouveau. Il est renforcé, évidemment, par les médias, que ce soit les séries, les films, la musique, mais aussi les publicités. Et on est enfermé dans ce récit du succès. Et finalement, tu te rends compte que, et en particulier en Occident, donc tous les deux, tu vois, on vient en Europe, donc on est dans des conditions très favorables, on ne se rend pas forcément compte, on a tendance à prendre pour acquis beaucoup de choses qui ne le sont pas nécessairement, en particulier notre sécurité physique, on est dans un pays qui n'est pas en guerre, notre sécurité financière, les banques ne font pas faillite, il n'y a pas d'inflation particulière, notre sécurité sanitaire qui vient d'être mise à mal là, mais qui dans l'absolu est quand même assez bien protégée. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est tous, plus ou moins, en France, il y a 10 millions de pauvres, mais on est tous plus ou moins quand même très riches. Quand je demande aux gens combien il faut gagner d'argent par an pour être dans les 1% les plus riches en France, on parle beaucoup des 1% les plus riches. Alors, on parle des 1% les plus riches en France, mais
pour le taxe d'impôt.
Voilà, c'est intéressant de s'intéresser aux 1% les plus riches dans le monde. Combien il faut gagner d'argent tous les ans pour être dans les 1% les plus riches en monde. Et tu te rends compte que c'est 27 000 euros par an. Donc en fait, si l'argent faisait le bonheur, on le saurait. En fait, on vit dans une société, c'est pour ça que ça s'appelle Insoutenable Paradis, ce bouquin d'ailleurs, c'est que c'est insoutenable bien sûr pour les autres vivants, les humains en particulier dans des pays plus pauvres, les vivants, je parle des mammifères, mais globalement tous les vivants, et puis évidemment, si on considère la nature, c'est-à-dire les arbres, comme du vivant, ce qui est le cas hein, en l'occurrence, c'est insupportable pour eux, mais c'est aussi insoutenable pour nous, parce qu'en fait, ça nous rend malheureux. On voit bien l'augmentation des burn-out, on voit bien les taux de suicide, en particulier chez les jeunes qui augmentent et qui n'ont jamais vraiment été aussi élevés qu'avant, que maintenant. On voit la prise d'anxiolytique qui est extrêmement forte. Donc en fait, ce modèle-là de bonheur supposé, il ne fonctionne pas. Et finalement, et je trouve que le confinement, ça a fait évoluer ça, on se rend compte que ce qui nous fait, ce qui nous rend heureux, c'est le lien aux autres. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est cette interdépendance avec nos voisins, avec nos amis, que ce qui nous manque, c'est effectivement d'être en lien avec les autres. Et quelque part, ce n'est pas d'aller chez Zara acheter une nouvelle paire de jeans ou une robe ou je ne sais quoi. Je crois que cette définition du succès, elle doit être revue, redéfinie. Et c'est sans doute la meilleure manière de devenir écologique, c'est-à-dire en redéfinissant ce que tu essayes d'obtenir finalement.
Dans la transformation de ton podcast, un podcast de marketing sur un podcast, j'ai envie de dire, de vie quelque part, entre la relation et la connexion, ça me fait penser au virement que Arianna Huffington a fait avec HuffPost, où elle était sur des sujets un peu business, enfin que business, etc. Et tout d'un coup, l'amour, la vie, le sommeil, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important, c'est ça qui a valu, en fait, quelque part, la plus grande valorisation du succès de HuffPost, mis à part le business model et tout le reste. Ma question, c'est quel moment tu as décidé de transformer, de transformation marketing à discours sur la vie?
Ouais, son bouquin Strive est vachement intéressant d'ailleurs à Arianna, parce que finalement elle te dit on m'a dit que le bonheur c'était le fait de gagner beaucoup d'argent, de faire des enfants, d'être mariée, machin. J'ai fait tout ça et je suis déprimée. Donc ça ne fonctionne pas. Je crois que moi j'ai passé 25 ans de ma vie. Moi je viens pas du même background que Arianna. Alors non, j'ai passé 25 ans de ma vie, je crois, à poursuivre cette idée du bonheur que je viens de décrire autour de l'accumulation. Pour me rendre compte et pour arriver dans des sphères où les gens ont de l'argent, en particulier dans les startups, on gagne beaucoup d'un coup, et pour me rendre compte que ça ne fonctionne pas. J'ai fait la transition, il y a un moment dans le podcast bien sûr, mais il n'y a pas un moment incroyable dans ma vie où je me suis dit « Ah, tu vois, j'ai pas vu la Vierge pour me dire tiens, je vais changer. » Mais simplement, je crois que ça a toujours été là. Et j'ai eu en fait, je me suis donné la permission d'être plus proche de moi, quitte à ne pas être aussi pertinent financièrement. C'est-à-dire, bien sûr que quand tu fais un podcast de marketing et que tu montres que tu connais un tel, et que tu as des discussions sur le marketing, nécessairement, ça te ramène des clients. Tu vois, c'était un peu la logique d'ailleurs de mon blog à l'origine, du podcast ensuite. Et là, je me donne l'autorisation de ne pas traiter ce sujet-là. Finalement, ce podcast, il n'est pas si loin d'être un podcast de marketing. Quand tu y réfléchis, le marketing, c'est quoi ? C'est une compréhension de l'évolution de la société. Donc, quelque part, on n'est pas non plus très, très loin. C'est simplement
ça, c'est une belle définition qui n'est pas forcément celle que l'on enseigne dans les entreprises ou les écoles de commerce.
C'est ce que j'essaie d'enseigner, moi, à mes étudiants, en tout cas. Mais effectivement, tu as raison, ce n'est pas la définition qu'on donne. Mais finalement, pour moi, le marketing, c'est comprendre la société, comprendre l'évolution de cette société pour servir, proposer des produits qui correspondent aux attentes des consommateurs. Donc, c'est pas de refourguer n'importe quoi à n'importe qui. C'est pas alors effectivement, c'est pas stricto sensu je fais plus de growth, comment je réussis sur Instagram, je me lance dans les podcasts. Moi, je trouve ça chiant en fait à traiter. Je le traite par ailleurs. Tu vois, je fais pas mal de conférences, comme tu sais, sur ce domaine-là. Mais j'ai décidé de changer de sujet parce que ça me semble plus important. Finalement, ce podcast est devenu un acte politique, comme l'est le livre quelque part. Parce que je crois qu'en 2020, on ne peut plus se permettre de ne pas être politique. Donc, il n'y a pas une prise de conscience incroyable à un moment donné, c'est juste une prise de conscience au fur et à mesure, simplement.
Il n'y avait pas de déclic. Parce qu'en fait, il y a un moment où tu te dis, voilà, je le fais, mon premier. Et moi, je regarde beaucoup les accidents, parce qu'en fait, c'était peut-être une rencontre dans un ascenseur avec quelqu'un, et dit, tiens, bon, ben, ça y est, j'y vais. Ou tu as mal dormi, tu as un rêve, et puis, enfin, en tout cas, s'il n'y en a pas eu, mais...
Il y a quand même une anecdote qui est la personne avec laquelle je fais cette boîte de production de podcast qui s'appelle Plink, qui est un bon ami qui s'appelle Pierre-Henri, et c'est lui qui finalement... tu vois, qui est à peu près ton âge, donc un peu plus âgé que moi, et qui m'a dit, mais Greg, en fait, c'est pas vraiment toi, tu devrais te donner la... En fait, il m'a invité à me donner l'autorisation de traiter d'autres sujets. Et je pense que la première fois que je l'ai fait, c'était avec Esther Perel, sur les relations amoureuses.
Oui, pas la moindre des personnes à faire avec.
Non, qui est une bonne amie que j'ai rencontrée à New York, qui n'est pas très connue en France encore. En France, non, vraiment. Non,
incroyable. Étonnamment. Ouais. Elle est belge.
Elle est belge, ouais. Mais
on est raciste contre les Belges.
Non,
moi, je suis né à Bruxelles.
Ah, je savais même pas.
Attention, je défends mes Belges.
Et oui, elle est incroyable. Et je pense que c'est le premier épisode. Après, j'ai fait 2-3 épisodes de plus sur le marketing. Après, j'ai passé l'épisode 50 mots Godat sur le bonheur. Et là, je pense que j'ai accepté que c'était pas moi, en fait, que moi j'avais changé et que la manière dont les contenus, dont je gérais des contenus, que je créais des contenus, n'avait pas changé. Donc, je me suis donné l'autorisation à ce moment-là. Mais je pense que le déclic s'est fait là.
C'est génial. Le fait que ça t'appartenait avant, évidemment, je le comprends, mais c'est tout comme pour Ariana Huffington quand elle parle du fait qu'elle passe à un autre niveau, elle change de vitesse, c'est parce qu'elle a eu le grand burn-out, la grosse dépression. Et le propos, quelque part, de ton livre, et puis ce dont on parle généralement, c'est pourquoi attendre ce moment pour se donner la permission, plutôt pour être qui on est, au lieu de ce qu'on veut être.
Je crois que c'est pas que tu attends ce moment. Je pense qu'on est... Le système te met dans une roue de hamster et tu cours 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 sans même réaliser, parce que c'est plus facile de pas y penser, que tu es en train de courir dans une roue qui ne mène à rien, en fait. Il n'y a pas de point d'arrivée. C'est-à-dire... Tu peux te dire non, mais je vais accumuler pour mes enfants, etc. Mais tout ça, c'est en fait tes enfants, ils ont surtout besoin d'amour, de liens émotionnels. Et l'argent, bien sûr, tu as besoin de les nourrir, de les loger, mais ça, tu peux le faire sans accumuler de manière massive. Et encore une fois, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas gagner d'argent. Hein. Je suis pas du tout radical à aucun endroit d'ailleurs. Mais simplement, tu cours dans une roue. Et quand tu es éjecté de la roue, ce qui est le cas quand tu fais un burn-out, moi, je n'ai pas fait de burn-out, mais quand tu fais un burn-out, tu es éjecté de la roue. Et là, en fait, c'est le seul moment dans ta vie où, par exemple, quand tu as une grosse crise, par exemple, quelqu'un qui décède ou tu te relèves.
Ou une pandémie, je dirais.
Ou une pandémie, par exemple, effectivement. Tu te relèves et tu regardes tous ces gens qui courent dans des roues et tu te dis, mais attends, mais... Est-ce que vraiment, tu vois, c'est un petit peu de Matrix, quoi. Tu sors de la matrice et tu dis, mais attends, En fait, c'est quoi ce bordel? Et là, en fait, tu te dis, bah, soit, et tout le système t'invite à retourner dans ta roue quand même, hein, c'est un peu ce, le concept.
You're back on the horse. Mais,
exactement. Et là, en fait, tu peux te dire, mais en fait, moi, j'ai pas envie de retourner dans cette roue-là. Et la question est, qui est fine et complexe, parce que, bien sûr, tu peux te dire, bah, je deviens altermondialiste, je vais élever des chèvres dans le Larzac, mais si t'as pas envie de faire ça et que t'as eu qu'une compétence pour élever des chèvres, par exemple, ce qui est mon cas, comment tu fais? En fait, la question centrale, c'est entre ton mode de vie moderne, que moi j'aime bien, hein, par exemple, tu vois, j'aime bien pouvoir prendre des douches chaudes, j'aime bien avoir du chauffage chez moi à 19 ou 20 degrés, j'aime bien, tu vois, qu'on discute là par Internet, tout ça, moi j'aime bien, j'ai un téléphone portable, j'ai un Mac, enfin, tu vois, je ne suis pas du tout altermondialiste. Et en même temps, comment tu fais pour ne pas rentrer dans cette roue à nouveau et comment tu fais pour avoir un rôle? Et c'est pour ça que je dis, finalement, on a plus vraiment le choix que d'avoir des actes politiques, que ce soit au niveau des organisations, mais aussi des individus.
Donc, Greg, tu parlais de la politique et que nous sommes de toute façon, de toute évidence, des êtres politiques, donc c'est normal. Mais dans l'entreprise, et j'ai envie de dire notamment en France, l'histoire d'amener sa personne et c'est presque un verboten d'être trop personnel au bureau. Et qui dit personnel dit aussi politique. Et aujourd'hui, je sens que le besoin, non seulement est d'amener sa personnalité et sa personne au travail pour être engagé, mais c'est aussi d'être politique.
En fait, tu as raison, il y a deux choses. La première, c'est effectivement, je crois qu'avec la consommation de masse, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu des entreprises extrêmement consensuelles. Donc, par essence, pas politique pour plaire à tout le monde. Donc, on ne prenait surtout pas de position. Et puis, on a essayé de... Et je crois que tu connais ça mieux que moi, mais on a écrasé, par exemple, la révolution des années 70, 60-70, pour faire rentrer tout le monde dans la même case. Tu vois, le costume, je trouve, est un bon exemple de uniformisation des personnes au bureau. Donc, uniformisation de la pensée, uniformisation de la manière de s'habiller, du mode de vie, etc., etc. Et aujourd'hui, ce qui faisait, moi, je dis souvent d'ailleurs aux entreprises, ce qui a fait votre force au XXe siècle peut être votre plus grande faiblesse au XXIe. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout. Les gens ont besoin d'avoir des entreprises qui soient proches d'eux. Elles ne croient plus du tout. Ils ne croient plus du tout aux entreprises consensuelles. Ils ne croient plus du tout au discours. De washing, que ce soit social, que ce soit green, ils y adhèrent plus du tout parce qu'ils savent que l'entreprise est en train de mentir. Donc en fait, on a besoin d'entreprises. Et puis aujourd'hui aussi avec Internet, on est capable de vérifier. Une entreprise qui est intéressante dans la politique, je trouve. On va pas faire le point Patagonia parce que ça serait un peu trop facile, mais Nike, qui est un autre point un peu facile, mais quand même intéressant. Beaucoup plus pertinent aujourd'hui, effectivement. On pourrait parler aussi d'Yves Rocher ou d'autres. Mais Nike, tu vois, qui a des postures politiques assez marquées. En particulier, alors, il y en a une qui est discutable, très largement discutable, sur les femmes. Tu vois, ils se sont positionnés avec cette campagne Nike She Runs, donc sur la libération de la femme, etc. Et ils se sont pris un petit peu dans les dents quand même, de manière légère, mais quand même, le fait que les femmes qui font les chaussures sont des femmes en Asie qui sont payées $1. Donc en fait, quelque part, pour l'Occident, ils disent libération de la femme, et en même temps, ce sont ceux qui font perdurer cette situation en Asie. Donc ça, c'est discutable. On ne parle même pas du travail des enfants. Je pense qu'ils essayent quand même de faire des efforts majeurs sur le sujet. Après, ils ne maîtrisent pas l'intégralité de leur prestataire, on va dire. Et puis, il y a cette histoire qui est quand même assez connue maintenant, où ils ont utilisé ce footballeur américain qui a mis son genou à terre pendant l'hymne national, comme...
Colin Kaepernick.
Et voilà, Colin Kaepernick, qui... ils l'ont utilisé pour la campagne Just Do It, qui était donc un signe extrêmement fort sur le racisme. Il a mis son genou à terre contre les violences policières il y a un an ou deux. Donc, un signe extrêmement fort de posture politique de la marque. Ce qui a valu quand même une baisse du cours de bourse, ce qui a valu beaucoup de vidéos de personnes qui se filment en train de brûler des produits Nike. Donc, on n'est pas dans le consensuel du tout. On est dans une posture politique très marquée, qu'ils ont reproduit Là, à l'occasion des événements autour de la mort de George Floyd, et qui en même temps est un peu calculé parce qu'ils savent très bien que c'est la seule manière pour une marque de s'en sortir. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ne sont plus du tout dans cette posture, tu vois, très neutre, on ne prend pas d'avis, etc., etc. Et aujourd'hui, malgré tout, malgré cette situation qu'on comprend, toi, moi, Nike, et ben en fait, la majorité des marques restent très consensuelles. Elles ne veulent pas choquer. Donc, elles prennent des postures, mais qui sont très politiquement correctes. Et qui souvent sont des postures, d'ailleurs. Tu vois, il y a un certain nombre de marques qui vont dire « Black Lives Matter ». Et en même temps, dans les bureaux, il n'y a pas un noir, quoi. Tu vois, c'est, donc, il y a un manque de cohérence.
C'était le cas d'Adidas, par exemple.
Voilà, enfin, par exemple.
Peu de Black. Alors exactement. Que leur population à laquelle ils vendent, c'est beaucoup de Black, évidemment.
Exactement.
Et il y a très peu qui travaillent dans les bureaux à Portland.
Mais tu sais ce que c'est le pire? Je crois que le pire, c'est qu'il y en a qui ne prennent même pas conscience. Moi, j'ai eu cette discussion, par exemple, avec la directrice générale de MAC, cosmétique, qui parle beaucoup aux Noirs. Et elle me dit, mais... Elle m'a demandé de l'aider. Elle me dit, mais est-ce que tu peux me connecter avec des gens Noirs? Parce que franchement, au bureau, il n'y a pas de Noirs. Enfin, c'est ridicule, je suis blonde. On me demande, enfin, ma marque, elle parle quand même beaucoup aux Noirs, pas qu'aux Noirs, mais beaucoup aux Noirs. Et en fait, c'est ridicule. Enfin, moi, je suis blonde, ma directrice marketing, elle est blonde. Dans les bureaux, il n'y a pas de Noirs. Donc, ouais, j'essaye de faire changer ça, mais bon, ça prend un peu de temps de transformer complètement l'industrie, enfin, l'entreprise. Donc, bah, ouais, je reconnais que je ne suis pas la meilleure personne pour le faire, en fait. Et du coup, mais au moins, tu vois, reconnaître ton biais et le fait que tu ne sais pas le faire. Il y a plein de gens qui disent, bah, il n'y a absolument aucun problème. Tu vois, qui sont dans cette idée de, non, mais les Noirs sont des personnes comme des autres, donc du coup, il n'y a aucune raison de faire aucune différence. Moi, entre guillemets, homme blanc, je peux totalement le faire.
Ce qui me fait penser à une autre maison cosmétique, L'Oréal. Je m'en souviens très bien du PDG qui m'expliquait que ben, je n'ai pas besoin d'être une femme pour vendre aux femmes. Et pour, en quelque partie, c'est vrai, parce que, bon, c'est, on va dire, on enfonce l'hétérosexualité là-dedans. Mais c'est quand même hallucinant d'imaginer aujourd'hui, car en fait, la posture, c'est professionnelle. Le marketing, c'est des pros. J'ai besoin de savoir les chiffres. Je sais ce que c'est le data et je sais comment écrire un mot, enfin, en gros, et puis que ça engage. Mais l'autre partie, c'est d'être dans cette sensation d'émotion, d'être dans la peau de l'autre, et l'empathie est un point clé là-dedans. Et mis à part le fait que, on va dire, les femmes sont plus capables que les hommes en général à être empathiques, quand tu vends aux femmes, ben, il y a un discours, il y a une manière de faire. Enfin, après, il y a, on va dire, la relation homme-femme. Mais vraiment, le sujet d'adéquation de la personne avec qui tu engages comme client est important. Mais enfin, évidemment, avec L'Oréal, l'autre point, c'est qu'en plein milieu, tu as distributeur. Et pour le coup, là, c'est encore, mais vraiment très masculin. Donc, en fait, ça dépend avec qui tu as affaire, si tu es dans une vraie connaissance du business. Mais l'idée de ne pas avoir une point de vue politique aujourd'hui est compliquée. Et pour autant, comment est-ce que tu peux, quand tu parles avec tes clients, les embarquer sur ce sujet? Comment ramener plus de sens? Comment ramener plus de la personne? Et comment ramener plus de la politique dans ton business?
Il y a plusieurs sujets que tu abordes. Le féminin, c'en est un. Le management, c'en est un autre. Le fait de ramener du politique dans une entreprise, c'en est encore un autre.
Tu choisis la propre.
Mais en fait, pour moi, on était dans une société extrêmement patriarcale. On est toujours, bien sûr, dans une société très patriarcale, dominée par un mythe très prométhéen, donc très masculin, avec cette notion de... que la puissance masculine est la seule qui vaille. Ce que j'appelle puissance masculine, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'appelle d'ailleurs, la puissance masculine, c'est cette puissance extérieure. Donc la force, la vitesse, tu vois, tous les éléments que tu vas mettre à l'extérieur de toi pour paraître. Tout ça, c'est très masculin. La projection, tu vois, tout ça, c'est très masculin. Et puis, il y a la puissance féminine, qui est, tu as parlé d'empathie, mais il y a la vulnérabilité, il y a la sensibilité, etc. Et c'est vachement intéressant de voir qu'au XXe siècle, enfin, pendant toute cette c'est depuis la Renaissance, mais disons qu'il y a une apogée et une fin d'ailleurs au XXe siècle, de cette puissance masculine et la puissance féminine considérée comme faiblesse. Donc si tu es gentil, si tu es empathique, si tu es sensible, si tu es vulnérable, alors c'est de la faiblesse. Alors qu'en réalité, c'est de la force. Et ce n'est pas une question de genre. Parce que les femmes qu'on met aujourd'hui en exergue comme des têtes de pont, comme femmes leaders, sont des femmes qui ont réussi, bon gré mal gré, avec de la puissance masculine, en fait. Pas avec de la puissance féminine. Et cette puissance féminine, elle est valable chez les hommes et chez les femmes. Bien sûr, tu as raison, la femme a par essence plus de puissance féminine a priori, mais il y a des hommes qui sont aussi qui ont une colonne féminine développée et qui peuvent développer ça. Ce qui manque aujourd'hui dans l'industrie, dans le business de manière générale, c'est de développer cette colonne féminine et de considérer que le féminin, c'est de la force. Donc ça, c'est le premier point que tu as abordé. Ensuite, il y a effectivement comment tu peux parler à des femmes si tu n'es pas toi-même une femme. En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'accepter qu'on a des biais cognitifs, tous. Il y a des tonnes d'exemples sur les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les asiatiques, sur les biais cognitifs. Mon ami Aurélie Jean qui fait de l'intelligence artificielle s'est beaucoup intéressé à ça. Je t'en donne quelques-uns. Le airbag, quand il a été créé par des hommes. Et en fait, quand les femmes avaient des accidents de voiture, elles mouraient dans la voiture parce qu'en fait, l'airbag avait été créé trop haut. Il avait été créé à la taille d'un homme. Et donc, les femmes, quand elles avaient un accident et qu'elles se faisaient récupérer par l'airbag, en fait, mouraient dans la voiture. Exemple bête, pas qu'ils ont voulu tuer des femmes, simplement, l'airbag n'a pas été pensé pour les hommes. Quand l'appareil photo des téléphones portables n'avait pas le contraste nécessaire pour prendre en photo des noirs, de la même manière, les développeurs ne sont pas racistes, c'est simplement qu'en fait, c'est un biais cognitif, ils n'ont pas fait attention. Aurélie, elle parle d'un biais cognitif qu'elle a eu sur les Asiatiques. On lui a demandé d'étudier pour les attentats à Boston à quelle distance il fallait être de la bombe pour avoir un traumatisme crânien. Et elle a étudié des Noirs, elle a étudié des Blancs, des hommes, des femmes. Et en fait, elle a pris pour acquis que les Asiatiques, c'était un peu comme les Blancs. Donc, la structure du cerveau était la même. Et donc, elle n'a pas étudié les Asiatiques. Alors qu'en réalité, les Asiatiques, ils ont une structure de cerveau qui est un petit peu différente. Et donc,
de la crâne et tout, oui.
Du crâne, oui, je parle du crâne, bien sûr. Et en fait, du coup, tu vois, ça, c'est aussi un biais cognitif. Et en fait, le problème souvent dans ces cas-là, l'idée, ce n'est pas de recruter des femmes parce que c'est des femmes ou de recruter des noirs parce que c'est des noirs. C'est simplement de se dire, il faut qu'on essaie d'éviter d'avoir des biais cognitifs au maximum. Donc, il faut qu'il y ait une forme de diversité parce qu'on sera mieux et plus puissant de cette manière-là. L'idée, ce n'est pas de faire mieux sur la photo parce qu'il y a trois femmes et trois noirs. L'idée, c'est de se dire, et des Asiatiques et des Arabes et je ne sais quoi, on n'est pas chez Benetton. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la diversité. La diversité, ce n'est pas de l'inclusion. Oui. La diversité, c'est effectivement de mettre des gens, une femme à la communication ERH, parce que bon, de toute façon, il y a besoin d'empathie pour ces métiers-là, mais bon, ce n'est pas les plus importants. Et puis à la finance, on met quand même un blanc, et puis le directeur général, c'est quand même un blanc, et puis c'est un homme. Et puis bon, peut-être qu'on va mettre un noir à la diversité, tu vois.
Je connais.
Pour dire, c'est bon, sur la photo, on a coché toutes les cases. La question, ce n'est pas ça. La question, c'est de se dire... comment je fais pour ne pas avoir de biais dans ma société et de prendre les personnes, pas parce que c'est des femmes, pas parce que c'est des noirs, des asiatiques ou des arabes, mais de prendre les meilleures personnes pour les postes. Et ce n'est pas nécessairement des blancs. Et c'est là où il y a un biais cognitif, souvent. Donc ça, c'était le deuxième point.
Le troisième, c'est la politique.
Et la troisième, on y arrive, c'est la politique. Alors, du coup, je ne me souviens plus de ta question parce que je me suis perdu.
En gros, comment expliquer
comment tu
un
fais
patron il faudrait être politique. Alors, parce qu'en fait, on va dire, c'est mauvais de tuer les gens. D'accord, c'est pas politique, ça. Et la nuance entre être engagé sur un sujet politique et être militant sur ce sujet.
Alors, effectivement, je pense que moi, je différencie beaucoup le militantisme de l'engagement. C'est une vue, c'est ma manière de voir les choses. Je dis pas que c'est une règle absolue, mais pour moi, quand tu es militant pour, mais tu es aussi souvent militant contre. Et moi, je suis, pour le coup, plutôt dans une forme d'engagement, c'est-à-dire l'engagement, tu es nécessairement engagé pour, tu es rarement engagé contre. Quand tu fais de ta cause ta raison d'être, tu vas dire à ceux qui ne sont pas comme toi qu'ils ont tort. Donc, tu es dans une forme de combat. Et le combat, ça génère jamais grand chose de très intéressant. Je dis pas que les militants n'ont pas leur raison d'être et qu'ils n'ont pas leur rôle, ils sont très importants. Je pense qu'une entreprise ne doit pas nécessairement être militante, tu vois. Je pense que c'est pas le rôle d'une entreprise de devenir militant. Peut-être au début, ça peut être l'occasion, tu vois. Je faisais référence à Patagonia ou Nike, quelque part, c'est des positions un peu militantes parce que c'est les premiers. Mais engagé, ça veut dire que tu t'engages et que tu essayes de faire bouger les lignes. De manière très concrète, très forte. Et ce n'est pas juste parce que tu fais une communication avec effectivement des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Asiatiques. Ce n'est pas juste parce que tu vas dire... Mais c'est une redéfinition, par exemple, de ce que c'est que la performance d'une société. C'est de générer de l'inclusion. Il y a une phrase comme ça que je trouve intéressante qui est « La diversité, c'est d'aller en boîte avec des Noirs. » l'inclusion, c'est de danser avec eux. Tu vois, c'est vraiment ça, ça se joue là, la nuance. Et les entreprises, elles doivent aujourd'hui s'engager. Alors, comment on fait en sorte, et c'est quoi le discours pour les entreprises? Je crois que, en fait, comme dans toutes les transformations, tu as tenu ce discours-là pendant des années, je l'ai tenu pendant des années aussi sur la transformation digitale, en disant, en fait, la transformation digitale, la question, c'est pas d'être sur Twitter, Instagram, TikTok ou je ne sais où, c'est un état d'esprit. À partir du moment où tu comprends l'état d'esprit, qu'en l'occurrence, le pouvoir, c'est pas le savoir, le pouvoir, c'est le partage. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments, tu vois, que tu connais encore mieux que moi, autour de la culture digitale. Tu peux être sur Twitter et être encore complètement arriéré hein, sur ce domaine-là. De la même manière, je crois que c'est un état d'esprit qui permet, donc c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux dirigeants, on a besoin de personnes avec du courage en fait, de managers, mais aussi de politiques avec du courage, qui prennent des postures, enfin pas que des postures d'ailleurs, mais qui prennent des décisions, pardon, et qui font bouger les lignes. Il y a des personnes qui peuvent bouger, qui sont intelligentes, il faut juste, un petit peu comme moi à l'époque quand on m'a dit, mais Greg, sois plus toi-même, donne-toi l'autorisation finalement oui. d'aller vers ça. Il y a des dirigeants que tu peux emmener vers là. Et ils se disent, ah bah tiens, et tu vois, je discutais avec Pascal Desmurger, le patron de la MAEF, qui me disait, bah moi j'ai plein de patrons du CAC 40 qui viennent me voir en me disant, mais je suis tellement d'accord avec toi, mais je n'ose pas, je ne sais pas comment faire. Et là, en fait, quelque part, que Pascal le fasse, ça donne l'autorisation à d'autres de le faire. Et ça, c'est super. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas changer. Et ces personnes-là, malheureusement, elles ne sont pas fit, elles ne rentrent pas dans la case du 21e siècle et en fait, elles vont être des ralentisseurs pour les entreprises.
Peut-être des technocrates très bons dans le management, on va dire, du chiffre, complètement. Mais pas dans un vrai engagement. La ligne entre le militantisme et l'engagement est intéressante parce qu'en fait, plus on est dans l'engagement, j'ai envie de dire, plus ça se rejoint à plaire à plein. Mm-hmm. Plus on est dans le militantisme, plus on est contre d'autres, donc on est plus provocateur, controversé. Et aujourd'hui, quelque part, j'ai quand même le sentiment qu'il faut être plus vers le militantisme que vers l'engagement. Car en fait, plus on est dans essayer de faire bien, d'être inclusif en tout. En fait, à partir du moment où on veut plaire à tout, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, on plaît à personne. Et le curseur de l'engagement, il doit être quand même un peu obsessionnel pour que ça marche. Parce que je suis engagé sur COP21, je suis engagé sur... je joue le violon, là.
Alors... Je pense que tu as sans doute raison. Il y a peut-être un curseur à mettre vers le militantisme, mais, et le mais est important, avec de la puissance féminine, c'est-à-dire ne pas être dans le rejet de l'autre. À partir du moment, si je te dis par exemple, toi, Minter, t'as tort parce que t'es blanc, parce que moi, je suis métisse.
Mais en t'as fait, raison.
Je sais. Mais par essence, du coup, je te dis que tu n'es pas bien. La réaction que... Elle ne va pas être dans « Ah mais ouais, Greg, t'as raison. » C'est vrai, je suis pas bien parce que je suis blanc. Du coup, et ça n'a aucun sens. Tout ce que tu vas dire, tu vas jamais dire ça. Tu vas dire, bah, tu vas te défendre. Et en fait, de mettre les gens les uns contre les autres, moi, je suis pas pour le fait d'être dans des dualismes absolus de tout. Tu vois, dire toi c'est mal, toi c'est bien. Combien de temps tu médites par jour, c'est bien, c'est pas bien, etc. Bon, et en ça, tu vois, tu peux être militant, donc très actif sur ta cause quelque part. Enfin, si tu peux pousser le curseur vers le militantisme, tout en n'ayant beaucoup de gratitude, mais aussi peut-être d'ouverture au chemin de l'autre et de l'intégrer dans le chemin.
J'ai un exemple qui me parle. C'est Ronan Dunne, qui est le PDG de Verizon aux États-Unis, Verizon Wireless, et il est irlandais. Il affiche ses couleurs irlandaises, c'est-à-dire qu'il soutient l'équipe irlandaise. Il tweet là-dessus, « Bravo, on a gagné. Dommage, on a perdu. » Mais pour autant, dans son équipe, il va avoir des Écossais, des Anglais, des Américains et tout le reste. Donc, il est très pour, fervent. Il n'a pas peur de montrer ses couleurs, mais pour autant, il n'est pas east contre le reste.
Exactement. Et ça, c'est cette posture-là que peut-être qui n'est pas comprise. Peut-être que les gens n'arrivent pas à saisir comment une entreprise peut faire ça ou comment ils n'arrivent pas à le faire à leur niveau individuel. Mais moi, c'est exactement la même posture que je peux avoir, tu vois, sur l'écologie, mais aussi sur le féminisme, d'autant plus que je suis un homme. Moi, c'est des postures que j'ai qui sont très fortes. Et en même temps, je ne suis pas dans le rejet absolu. Moi, je pense que, tu vois, typiquement pour l'écologie, parce que c'est un peu notre sujet là, il est trop tard pour être dans le dualisme et pour dire « toi, t'as tort, toi, t'as raison » et pour dire « les entreprises sont tous des connards ». Parce que ça, déjà, ce n'est pas constructif. Mais en plus, il faut inviter et faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui rejoignent. Donc, en étant dans la dualité, tu n'arrives pas à faire ça. Et moi, je trouve que justement, et les réseaux sociaux ont beaucoup invité à ça, on est dans des visions très binaires de problématiques qui ne le sont pas du tout. Tu vois, c'est d'un côté, il faut être soit militant écolo et effectivement élever tes chefs dans le Larzac, quitter la ville et dire que les capitalistes, c'est tous des connards. De l'autre côté, t'as le solutionnisme technologique, la technologie va nous sauver, c'est bon, on peut continuer à vivre comme on fait aujourd'hui. On sait bien que 95% des gens, ils sont ni dans l'un ni dans l'autre, ils sont au milieu. Et ils sont paumés dans les discours parce qu'ils ne s'y retrouvent pas du tout. Tu vois, et moi, c'est à ces gens-là que j'ai voulu parler finalement à travers mon bouquin. Mais
tu as très bien parlé dans ton livre, Greg. En fait, ce que j'ai apprécié, parce qu'en fait, tu parles dans la nuance, tu essayes de réconcilier des paradoxes qu'on vit tous et des forces contraires, être écolo mais vouloir être moderne, enfin tout ça. Et voilà. Greg, on aurait pu parler pendant des heures. Je vais te demander, je te remercie beaucoup, j'ai adoré lire ton livre, Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier, aux éditions d'Uno. On est mi-juillet, comment est-ce que quelqu'un peut aller se procurer ce beau livre?
Écoute, il est disponible dans n'importe quelle librairie. Donc, on peut simplement aller dans une librairie et demander à la personne s'il le possède ou sinon qu'il le commande. Et pour les fervents du digital, tu peux évidemment le commander sur la Fnac ou Amazon. C'est un bouquin qui a été écrit, on n'en a pas parlé, mais avant le confinement, avant la crise sanitaire. Et en même temps, on en discutait un tout petit peu avant. Je ne suis pas certain que je changerais quoi que ce soit dans le contenu. Parce qu'en réalité, cette crise, elle est l'expression d'une maladie qui était sous-jacente. Tu vois, le mot crise en grec, c'est vraiment, ça vient du vocable, autour de la médecine. Et c'est, en fait, la crise, c'est le moment où la maladie se déclare. Mais avant, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est là, elle est sous-jacente. Et finalement, mon bouquin, il décrit cette maladie sous-jacente. Elle donne des solutions à cette maladie sous-jacente. Et là, la crise a montré et a l'expression. Et finalement, en grec, quand tu reprends ce mot-là, c'est une opportunité aussi, cette crise, puisqu'en fait, c'est l'opportunité de se guérir. Et tu vois, tu me demandais, est-ce que j'aurais changé des choses? Sincèrement, j'aurais pas changé grand-chose si je devais réécrire. Enfin, si je devais rajouter un élément ou quoi, peut-être que je rajouterais des éléments sur le Covid, mais franchement, il n'y a pas le constat est le même.
C'est sur un message de fond et par ailleurs, beaucoup de ton livre, tu parles de toi, donc plein d'histoires personnelles. Il y a beaucoup de témoignages d'autres aussi, mais bon, ton histoire personnelle, c'est la tienne. Mais ça, enfin, il y a tout le reste à écrire, mais c'était jusque-là vrai. Greg, merci beaucoup. Pour te retrouver sur l'Internet ailleurs, comment faire?
On va sur, je suis à peu près Greg from Paris sur tous les réseaux, quasiment tous.
D'accord.
Donc, sur Twitter, sur Instagram, sur.
Je mettrai tout ça dans les show notes. Je te remercie beaucoup, Greg.
Super, merci beaucoup. À plus.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site, minterdial.fr. Pour vous inspirer,
Je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
Stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die suburb. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man.
I'm ready for an arrest.
I'm a convinced man, in the arms of a woman.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.